Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nouvelle page, c'est le titre du 8e album de Jennifer. Apparaître demain, elle nous le présente et se confie dans un instant au micro de Steven Bellery. L'écrivain suédois Jonas Jonasson publie « Le vieux qui voulait sauver le monde », la suite de son best-seller de 2011, « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire ». Bernard Lehu a rencontré l'auteur. Ce soir sur TF1, 21h, le retour de la série à succès « Munch », portée par Isabelle Nanty. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque. Et puis en cette période de vacances, des spectacles jeunesse sélectionnés par Laurent Marsic. Il sera notamment question des aventures de Tom Sawyer en comédie musicale.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
La musique pour commencer. 2 ans après Paradis Secret, Jennifer publie demain son 8e disque intitulé Nouvelle Page. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré la chanteuse de 35 ans qui écrit avec ce nouvel enregistrement une nouvelle page au sens propre.
Oui, d'abord musicale. Jennifer renoue avec une pop acidulée. Exemple avec Comme c'est bon.
Si tu savais.
Quoi, ce retour aux sources, réponse de Jennifer.
Cet album s'appelle Nouvelle Page, mais c'est un retour à la première page. Quand on écoute les sonorités de cet album, il est radicalement pop. Il ressemble plus à mon premier album qu'au précédent. Parce que sur mon dernier album, que j'aime beaucoup, Paradis Secret, peut-être que je suis allée trop vite. Encore une fois, parce que j'ai toujours fonctionné très vite. On m'a connue tôt, à la Star Academy, j'avais 18 ans. J'ai souvent enchaîné avec des humeurs qui étaient plutôt changeantes au fur et à mesure de mes albums. J'ai fonctionné aussi avec mon âge, des rencontres. Quand je revois certaines images, par exemple sur Paradis Secret, il y a des images finalement qui ne me correspondaient pas. Et voilà, mais on apprend énormément à travers ces échecs. On cherche pourquoi. J'ai pas joué à l'autruche, j'ai cherché pourquoi on m'a pas attendu. Parce qu'on est là pour divertir, pour échanger des émotions et puis pour marquer des vies. Enfin, c'est le pouvoir de la musique. Et en fait, j'avais oublié cet essentiel.
On y peut.
Alors cette nouvelle page, elle est aussi très concrète pour Jennifer, Steven.
Oui, car Jennifer a changé de manager et de maison de disque, deux décisions fortes qui font suite à un événement tragique. En mars 2017, de retour d'un concert, le van qui la ramène à Paris percute une voiture. Deux personnes perdront la vie dans l'accident. Jennifer annulera le reste de sa tournée. Débute alors une période de doute pour la chanteuse. Confidence.
Il y a un moment donné, après cette année 2017 qui a été épouvantable, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai quitté Paris, je savais plus trop ce que j'avais envie de faire, vraiment, ce que j'avais envie de défendre aussi sur scène. J'avais un petit peu perdu la passion. Je sais plus trop celle que j'étais. J'étais un petit peu perdue. Et grâce à mon nouvel entourage, à ma famille, aux gens dans la rue aussi, il y a le manque à un moment donné qui est arrivé. Et du coup, je me suis réconciliée avec ma voix, grâce aux auteurs et aux compositeurs qui ont participé à ce disque. Ça m'a servi en quelque sorte de thérapie, un petit peu tout ça. Avec le chant, je sais pas. En tout cas, ça m'a guéri de beaucoup de choses. Ça m'a aidé à avancer et à accepter, en fait.
La chanson reste plage 10 d'un album où Jennifer se confie comme rarement sur des textes écrits par Slimane, Christophe Maé, Paul École ou encore Johan Mallory qui signe 3 titres de l'ultime album de Johnny. Jennifer chante le harcèlement de la presse People, la nostalgie, l'amour, la séparation. Elle évoque aussi en filigrane du titre Encore et encore l'assassinat de son oncle en Corse en décembre 2017.
J'ai perdu une personne qui m'est très chère fin d'année 2017. J'ai pensé à d'autres personnes qui étaient susceptibles d'avoir perdu quelqu'un qui leur était cher, le manque. Au départ, j'avais pas les reins assez solides, j'avais pas assez de force pour défendre le texte de Johan. C'est arrivé parmi les dernières chansons. Je pensais pas pouvoir y arriver, et puis je l'ai fait. J'ai mis une semaine à la chanter, ça a été pénible, mais en même temps, ça m'a fait du bien aussi.
Puisque la vie n'est qu'un tour de manège, je m'accroche à la vie quand le destin m'abîme. La vie ne vous épargne pas.
J'ai eu beaucoup d'étapes. Maintenant, j'ai une éducation qui me permet de garder le cap. J'ai un profond respect pour les gens qui sont susceptibles de vivre des choses beaucoup plus douloureuses que les miennes. Il y a des guerres encore dans le monde, il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a des choses qui ne devraient pas être. Et moi, ça me touche profondément et ça me donne en même temps de la rage et de trouver la force nécessaire pour continuer d'avancer.
Jennifer est de retour demain avec Nouvelle Page. Elle démarrera le 8 mars une double tournée, deux spectacles différents, deux setlists, des petites et des grandes salles. Elle se produira notamment le 18 mai à la scène musicale à Paris.
C'est les pauses que je jette, on se reverra pas. Les flashs m'ont abîmé, c'est ma vie qu'on a volée, on se connaît même pas.
Merci beaucoup Steven Bellery pour la découverte de ce nouvel album de Jennifer. Dans un instant, un nouveau livre, celui de Jonas Jonasson avec Bernard Lehu. Restez avec nous.
Le retour du vieux.
C'est le retour du vieux.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Monsieur Lehu, bonjour.
Bonjour.
En 2011, débarquait dans les librairies un livre au drôle de titre, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'était le premier roman d'un ancien journaliste suédois, Jonas Jonasson, qui allait devenir un best-seller planétaire. 7 ans plus tard, Le vieux est de retour et vous avez rencontré Jonas Jonasson.
Alors, échappé de sa maison de retraite par la fenêtre, le jour de ses 100 ans, Allan Carlson, alias Le vieux, avait fait rire des millions de lecteurs en les emmenant dans sa folle traversée du XXe siècle. Il croit en toute simplicité, Staline, Mao, Franco ou De Gaulle. Et dans la suite qui vient de sortir aux presses de la Cité, Le vieux qui voulait sauver le monde, Allan vit des aventures toujours aussi burlesques en compagnie entre autres de Kim Jong-un en Corée du Nord ou Donald Trump en Amérique.
Pas mal.
Alors raconter l'histoire chaotique du siècle, voilà ce qui a poussé Jonas Jonasson à créer ce personnage du vieux.
From the very beginning, he was not very much more than
Oui, alors au départ, le vieux, c'était pas grand-chose d'autre qu'un outil, parce qu'en fait, mon objet, c'était de raconter tous les défauts, en fait, du XXe siècle, et j'avais donc besoin d'un guide pour ce faire. Et évidemment, si vous avez besoin d'un guide pour l'ensemble d'un siècle, il faut bien sûr qu'à la fin, il atteigne un âge respectable.
Certes. Alors, il faut dire que Jonas Jonasson, ancien journaliste, donc, se passionne pour l'histoire et l'actualité, une véritable addiction chez lui.
D'où me vient cette préoccupation ? J'en sais rien, en fait. C'est-à-dire que je suis accro aux infos. Il n'y a pas si longtemps, mon téléphone intelligent m'a révélé que, en moyenne, la semaine d'avant, j'avais passé 5h08 à surfer par jour. Voilà, un téléphone intelligent, enfin, plutôt enfoiré de téléphone, de me mettre ça sous le nez. En tout cas, voilà, je ne joue pas sur mon téléphone. Je regarde les nouvelles. Je suis le Washington Post, je suis très intéressée par ce qui se passe aux États-Unis et tout autant par ce qui se passe en Suède et en Europe.
Et une addiction que Jonas Jonasson inocule ici à son vieux qui va devenir un accro de la tablette numérique, une vraie découverte pour lui.
Bah oui, alors on l'a compris, le talent de Jonas Jonasson, c'est de choisir l'humour pour nous parler du monde d'hier et d'aujourd'hui tel qu'il ne tourne pas. Paron.
Mais oui, et j'ai demandé à l'écrivain suédois d'où lui vient cet humour si particulier.
Quand j'étais enfant,
mon père se levait toujours pour éteindre la télé à la fin des infos du soir. Il avait toujours le même commentaire qui disait « Mais tout ça, c'est complètement désespérant, c'est que de la merde et ça me donne envie de pleurer. » Et moi, j'avais toujours envie de lui répondre « Mais papa, pleurer, ça ne fait pas avancer les choses. » chose. C'est vrai qu'on peut dire la même chose du rire, de l'humour, mais je crois qu'en tout cas, l'humour rend les choses plus faciles. Et en ce qui me concerne, c'est sans doute un outil qui me permet de survivre.
Pardon, monsieur, je la sonne.
Bah oui, non, attention.
Un humour qui plaît donc à ses nombreux lecteurs. Le succès mondial du vieux se manifeste parfois de façon inattendue, comme le raconte Jonas Johansson.
The love letter I got from Canada.
Le meilleur souvenir, c'est cette lettre d'amour que j'ai reçue du Canada, d'une centenaire en fait, qui rêvait de faire exactement ce qu'Alan Carlson avait fait, c'est-à-dire sauter par la fenêtre pour changer de vie. Elle vivait dans une maison de retraite, mais malheureusement c'était pas possible puisque la fenêtre était au troisième étage. C'était une lettre qui était très très jolie et puis elle avait un ton assez séducteur puisque le post-scriptum de la lettre disait « Vous êtes très bel homme ».
P.S. You are very handsome.
Il y a les audiences.
Very handsome. Voilà, Jonas Johansson qui publie 7 ans après la suite du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire.
Oui.
Ça s'appelle « Le vieux qui voulait sauver le monde ». C'est toujours aussi déjanté parce que notre monde, justement, marche trop souvent, lui aussi, sur la tête. On en a encore des preuves, là, ces dernières heures. Et c'est publié, donc, ce nouveau Johansson aux presses de la Cité. Traduction de Jonas Johansson par Pascal Fougère.
Merci beaucoup, Bernard Lehu. Une toute dernière information, nous l'évoquions dans nos différentes éditions ce matin du journal. La justice confirme donc le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal dans le cadre de l'affaire Big Malion. Nous y revenons bien entendu dans nos prochaines éditions avec la rédaction. On passe maintenant à la télévision, nos audiences de la veille avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, ce sont des audiences très éclatées. C'est ce qu'on dit quand il n'y a rien de spectaculaire et que le public s'éparpille un peu partout. Il y avait donc 3 900 000 personnes quasiment sur TF1, 17% du public sur la 1, 3 200 000 sur la 2, 14% du public environ. Et en troisième position, très joli score pour le meilleur pâtissier qui frôle les 3 millions devant la carte au trésor qui ne mérite pas, avec 2 500 000 fidèles. Côté TNT, c'est TMC avec Burger Quiz qui est nettement en tête comme d'habitude, 810 000 téléspectateurs.
Alors ce soir, succès oblige, on retrouve sur TF1 les héros de Munch, série se déroulant dans un cabinet d'avocats.
Vous l'avez bien dit, des avocats pas trop mûrs avec le patron noir et homo joué par Lucien Jean-Baptiste et la reine du barreau, Gabrielle Munch alias donc Munch, alias Isabelle Nanty, qui après 2 épisodes pilotes et une saison 1, n'est pas encore lassée.
Bah, pas de lassitude, non, quand même déjà. C'est Françoise Berthaud et Jean-Sébastien Bouilloux qui sont venus me trouver en me parlant d'un projet, donc il n'y avait rien d'écrit encore, d'une avocate, un pénaliste, qui essaie de courir plus vite que l'administration. Et puis après, bah, ils ont écrit l'équipe conforme avec Lucien Jean-Baptiste, Tom Villa, Aurélien Vic et Paloma Coquan. On est content de se retrouver. On aime jouer ensemble. On aime aussi patiner les textes pour que ça n'ait pas l'air d'être trop écrit. C'est du travail. Parce que le rythme des séries, c'est quand même des tonnes de textes par jour. Mais le fait qu'on soit tous ensemble, c'est vraiment un régal. Du coup, on s'embête un peu au cinéma après. Ça pourrait aller plus vite.
Voilà, il y a aussi des guests. Ce soir, un Joey Star, injustement accusé de meurtre. Il enlève par hasard Munch, qui retourne la situation à son profit, évidemment, au moment où arrive le nouveau substitut.
Ah. C'est vous qui l'a prise en otage ?
En otage, on va se calmer. Hein. C'est juste un homme poussé au désespoir par une justice un poil expéditive.
Maître Munchowski, je présume. Jérôme Tillier, substitut.
Okay.
Dois-je comprendre que vous êtes son avocate ?
Non, moi je suis...
Vous êtes suspendu, on est d'accord.
Ouais.
Je ne voudrais pas vous donner l'impression d'être trop formaliste. Enfin...
Moi, je dirais pas formaliste, je dirais plutôt procédurier.
Sur vous, on parle de carrément borderline.
Ah ouais,
ouais. Et vous savez ce que ça veut dire, borderline ? Bien, c'est de l'anglais et ça veut dire ligne de borne. Ne dépassez pas les bornes, Maître Munchowski.
Au revoir. Merci pour cette leçon d'anglais.
Voilà. Elle attire les ennuis comme le miel attire les ours. L'un des atouts de Munch, ce sont des dialogues étincelants
drôle,
portés
hein.
par des acteurs de comédie, habitués aux répliques ping-pong. Mais justement, Isabelle Nanty, ça, figurez-vous que ça la perturbe.
Ah bon.
Moi, à l'inverse, ce que je trouve fatigant dans la comédie, c'est une obligation de rythme. J'aimerais pouvoir faire des comédies extrêmement lentes. Comme Daroussin était dans Mes meilleurs copains, par exemple. En France, il n'y a pas cette tradition. Si une femme est drôle, elle est forcément pète sec. Je trouve bien de voir exister des drôleries plus lunaires, plus poétiques.
Oui, ben moi je trouve que c'est quand même bien comme c'est ce soir dans Munch. Certains acteurs craignent qu'elle devienne une récurrente télé, sachant récurer. Ça l'inquiète, elle ?
Moi je m'en fous. Enfin, je ne réfléchis à aucune conséquence de mes actes. C'est d'ailleurs dramatique. Donc, bah, je verrai bien. Et puis surtout, on peut pas dire non plus que le cinéma soit ma vie. J'ai pas de plan de carrière. J'en ai jamais eu et ça serait peut-être un petit peu tard pour en avoir. Donc en fait, je me laisse un peu porter par ce qui me plaît de faire sur le moment où je fais. Voilà. Aussi bien mettre en scène des gens que j'aime bien au théâtre, aussi bien être dans la vie, à préparer des repas. C'est le même plaisir pour moi.
Oui, c'est le même plaisir. À propos de repas, comme nous sommes de vraies femmes, nous avons aussi fini par parler des problèmes de poids. Non, au sens propre, elle a maigri.
Ah oui.
Oui, je me suis vue au combo une fois et j'ai dit « Ah non, là, c'est plus possible. » Là, ça avait atteint un niveau pas possible. Donc, grâce à mon ami Lucien, j'ai amorcé un petit régime pour pouvoir monter les escaliers plus facilement. Il faut que je perde encore un tout petit peu sur le ventre, là, pour tout dire. Et c'est juste une histoire aussi de pas vieillir trop gros, parce que c'est pas terrible de vieillir trop gros.
C'est pour ça qu'elle est dépressive.
On en reparlera. Non, elle n'est pas dépressive, elle est lunaire. Alors, justement, Lucien Jean-Baptiste, parlons-en. Au début, on l'avait difficilement reconnu en patron portant, bien la robe et surtout le costard.
C'est marrant parce que je me suis dit la même chose quand on m'a proposé le rôle. J'ai dit, mais c'est absolument pas pour moi. Vous savez que je mène un petit combat comme ça sur les préjugés. Et finalement, eh bien, ce personnage d'Hubert Bélanger, 50 ans, homosexuel, avocat, à travers ce personnage, il y avait bizarrement au départ pas mal de choses à défendre. Même si on n'avait pas eu des bonnes audiences, j'aurais pas regretté de le faire, puisque si je fais les questions et les réponses, quand on me demande pourquoi j'ai accepté ce personnage, parce qu'il est magnifique. Mais surtout, la personnalité d'Isabelle Nanty, ça a été une rencontre de dingue, de dingue. Quand on s'est rencontrés tous, vraiment, il y a eu un phénomène de famille. On s'est tout de suite senti bien et ça transparaît à l'écran.
Et c'est vrai que ça transparaît à l'écran et c'est vrai qu'il est vraiment à parité avec Isabelle Nanty dans ce feuilleton. Donc Munch, 21h, TF1.
Dans un instant, les bons conseils de Laurent Marsic pour vos sorties jeunesse à Paris, en l'occurrence comédie musicale à Mogador et d'autres surprises au Théâtre Paris-Villette.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
La jeunesse à présent, cette période de vacances, voici deux idées de sortie. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Vous avez craqué pour deux spectacles. Le premier est un classique de la littérature qui fait son retour sur scène en musique, c'est Tom Sawyer au Théâtre Mogador, dans le 9e arrondissement de Paris.
On se souvient tous, nous les vieux, de ceci.
Tom Sawyer,
dessin animé des années 80. Mais Tom Sawyer, c'est d'abord et avant tout un roman vieux de plus d'un siècle signé Mark Twain. L'Amérique au sud du Mississippi, les aventures d'un petit garçon, Tom Sawyer, orphelin, élevé par sa tante, il ne rêve que d'une chose, être libre.
Mais quand est-ce que tu vas finir par comprendre ? Tu voles, tu mens, tu me...
Quoi ? Je t'ai fait honte ?
Il faut que tu changes. Tu vas gâcher ta vie, Tom, si tu continues.
Mais faudrait déjà que je la vive !
En 2017, Tom Sawyer débarquait sur la scène du Théâtre Mogador et devant le succès, le voici de retour pour une série de représentations, toujours sous la forme d'une comédie musicale. Dans le livre de Mark Twain, Tom rencontre un autre orphelin.
Je m'appelle Huckleberry Finn. Tom Sawyer.
Il tombe amoureux de la fille du juge.
Je dois lui dire, je t'aime.
Je suis désolé, Becky, mais il est pas très bon, ton chewing-gum.
Bien sûr qu'il m'énerve quand même.
Et il se retrouve embarqué dans une aventure où il est question d'un indien tueur et surtout d'un trésor dont seul le poivreau du village connaît l'emplacement.
La roue tourne de notre côté. On va vivre comme des princes. On l'a bien mérité. La roue tourne, oui.
Mais en fait, ils ne sont pas éloignés du tout de l'histoire originale.
Exactement, c'était même essentiel, explique David Rosen, le metteur en scène et coproducteur de ce spectacle, avec un rôle spécifique pour la musique.
Le pari, c'était effectivement d'articuler toutes ces musiques, mais non pas pour qu'elles viennent re-raconter quelque chose qui était déjà dit dans les scènes, mais plutôt pour faire avancer l'action.
Et cette comédie musicale fonctionne aussi bien avec les petits qu'avec les parents. Ça se déhanchait dans la salle. Il y a aussi de l'humour pour les parents.
Dis-lui d'arrêter ou je le tape.
Je peux taper plus fort.
Je peux taper plus bas.
À quelques rangs de moi, une dame et sa fille étaient même à deux doigts de se lever de leur fauteuil pour danser et chanter. Bon, faut dire qu'elles en sont à leur...
C'est la cinquième fois que je viens le voir. Ah. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne voit pas, qu'on voit la fois d'après. J'ai toujours plaisir à revoir ce spectacle. Tout le temps.
C'est des soucis ou s'empoisonne, la faute à qui, la faute à Tom, c'est toujours lui ou c'est tout comme, oui, c'est toujours Tom.
Tom Sawyer au Théâtre Mogador, ça joue à 11h ou 14h30 du mercredi au lundi jusqu'au 6 janvier, prix de la place autour de 20 euros.
Autre spectacle qui vous a enchanté, Laurent, de la danse au Théâtre Paris-Villette.
Alors, voici Pilographie par la troupe de danse Bazooka, noir absolu dans la salle. Tout travail en lumière noire. Soudain apparaissent sur scène des fantômes qui, au gré du vent, du souffle intérieur et extérieur se mettent à flotter, s'échappent, virevoltent. C'est bluffant, c'est un ballet de danse contemporaine, donc en lumière noire. Ça marche du coup très bien auprès des enfants.
Moi, ça m'a pensé que ça existe et c'est une histoire.
En fait, dès qu'il y avait la musique, ils dansaient. Et quand il n'y avait pas, ils dansaient pas. Au début, j'ai cru que c'était des vrais.
T'as eu un peu la trouille ?
Oui. Bah, moi, j'ai eu un peu la trouille, j'étais cool à ma maman.
Moi, j'avais pas ma maman, mais j'ai pas eu la trouille. Sarah Crépin et Étienne Cupins dirigent cette compagnie de danse bazooka un peu particulière.
Jouer au fantôme, c'est quelque chose de très enfantin, mais c'est quelque chose qu'on garde dans la tête quand on est adulte. Et nous, on avait envie de reconvoquer voilà, cette liberté-là.
On a travaillé sur l'air. Tout mouvement génère un courant d'air qui va ensuite se propager vers les autres. Et donc, on est comme ça dans un rayonnement, dans quelque chose qui est toujours complètement fluctuant.
Pilographie, samedi, dimanche et mercredi, le prix 6,50€, 45 minutes de danse fanto-contemporaine jubilatoire, c'est au théâtre Paris-Villette, porte de Pantin, Paris.
Laurent est très enthousiaste. Merci pour ces idées de sortie, Laurent Marcy. Dans un instant, on se sépare en bonne compagnie pour accueillir Julien Courbet.
Je rappelle la toute dernière information que nous avons apprise ce matin. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Une décision que l'ancien chef de l'État peut encore contester devant la Cour de cassation. Voilà, nous sommes complets. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Qu'on retrouve demain avec notamment la vente d'une partie de la bibliothèque de François Mitterrand avec Marie-Bénédicte Allaire. Et nous, on retrouve tout de suite Julien Courbet.
Et qui va vous demander de bien vouloir nous rappeler cette règle des 21. Là, j'ai entendu ça ce matin.
20.
Vous avez entendu parler de la règle des 20-20-20 ?
Alors, qu'est-ce que c'est, Yves ?
L'a vu, Michel Simès.
Ah, d'accord, parce que j'étais avec Maître de Comont, il me dit, c'est, tu commences par 20, Ricard. Ensuite, tu...
Maître de Comont, mais pas du tout,
il est très sombre. 20 verres de rouge, j'ai suivi par 20 de digestif. C'est-à-dire qu'après, tu ne prends pas ta voiture. Parce qu'on va parler de voiture.
Ah oui ?
Oui, de PV, de radar, de compteur qui passe de 200 000 à 100 000, des choses comme ça.
Parti
quoi.
Parti bizarrement, votre histoire ce matin.
Je vous souhaite une belle journée, monsieur Calvi.
Même vous écoutez
avec curiosité. Ainsi qu'à tous vos proches. Merci.